Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ça n'est pas une deuxième saison des années boom, mais un épilogue, une deuxième fin, une ouverture, un espoir. Mes années boom, une enquête algérienne, vous vous en souvenez peut-être, c'est une série que nous avons diffusée il y a un an, l'enquête de notre collaboratrice Adila Benedjaizou sur les traces de son père mystérieusement assassiné en Algérie il y a plus de 40 ans. Un podcast que vous avez plébiscité, écouté en binge comme on consomme une bonne série télé et qui a raflé les prix les plus prestigieux du petit monde de la radio. Les 7 épisodes suivaient le chemin personnel et familial de l'enquêtrice, tout en creusant des pistes et des hypothèses parfois sérieuses, parfois farfelues, sur le ou les auteurs du crime, sur le mobile, le mode opératoire. Après avoir envisagé que son père Hossine Benedjaï, un ingénieur agronome qui travaillait dans une ferme pilote de l'Ouest algérien, ait été tué par des militaires, par sa mère, par un camarade de promotion, qu'il se soit suicidé ou qu'il soit mort d'une simple crise cardiaque, on était resté en l'air, sans vraie réponse. La suite se faisait donc attendre avec impatience. Voici donc un épilogue en 3 volets, comme une conclusion qui apporte de nouveaux éléments ou de nouveaux éléments qui mènent à une conclusion. Voici une relance avant de refermer le dossier, 2 ou 3 portes qu'on n'avait pas poussées, qu'on ouvre pour en avoir le cœur net, en mode Columbo qui revient sur ses pas avec son détail qui le chiffonne. On pourrait aussi considérer cette petite suite comme un bonus ou un supplément. En fait, appelez ces 3 nouveaux épisodes des années boom comme vous voulez. Il y en a 1 aujourd'hui et 2 la semaine prochaine. Et pour ceux qui n'ont pas écouté le début de la série, les 7 premiers épisodes sont disponibles dans un podcast spécifique qui s'appelle justement « Mes années boom » sur iTunes, Podcast Addict, Podcast, enfin tous les endroits où on trouve des podcasts. Ils sont aussi disponibles en écoute, c'est-à-dire on peut dire aussi en replay, sur le site de France Culture « Mes années boom ». Donc tout de suite, les 2 paires, c'est dans les pieds sur terre, sur France Culture par Adila Benedjaizou.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
En fait, le truc, c'est que je pense que je vais retourner en Algérie, mais je sais pas encore si j'aurai de quoi continuer la série. On verra.
Je crois qu'il y a un moment où il faudrait que tu t'arrêtes. Parce que ça va devenir dangereux pour toi, même 40 ans après.
Mais en fait, ça c'est un truc qui m'intrigue vachement parce que maman, elle m'en a jamais parlé de ça.
Mais si, on comprend là.
Ben, en même temps, elle m'a quand même raconté beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, mais tu comprends, ça implique des gens que tu peux mettre en danger.
Hein? Parce que tu penses que c'est dangereux.
Je pense que c'est très dangereux encore, oui.
Mais, enfin, les années boumédiennes, c'est fini.
Oh, tu veux rire.
Ça faisait déjà un bon mois où tu arrêtais pas de dire « Maman, papa est mort. Maman, papa est mort. »
C'était l'Aïd de... l'Aïd el-Kébir. C'était l'Aïd du sacrifice.
Comme quoi, la sensation de mort rôdait autour de nous.
Il a été assassiné chez lui.
Les responsables, c'était des militaires, c'était pas des civils.
Ça n'a pas à voir avec ton passé, ça a à voir avec une partie de ton histoire qui est tronquée par ma volonté.
C'est extrêmement difficile de dire « je ». Parce que tout ce que nous avons vécu, nous l'avons vécu dans le collectif.
L'armée fait partie de la nation, fait partie du
Je crois qu'il y a un moment où il faudrait que tu t'arrêtes. Parce que ça va devenir dangereux pour toi, même 40 ans après.
Ça s'est passé comment, vous vous souvenez ?
C'est tellement loin, tellement loin.
Si, non, ça part d'un pas.
Dieu seul le sait.
Ouais, Dieu seul le sait. Dieu et l'assassin.
Et l'assassin, voilà.
Non, les années boumédiennes ne sont pas finies, et mon enquête non plus. Ça fait maintenant plus d'un an que je fais des recherches sur la mort de mon père qui a eu lieu en Algérie en 1975. Après la diffusion des premières étapes de cette enquête, j'ai reçu pas mal de lettres d'auditeurs. Mais celle qui m'a le plus frappée, c'est celle-ci. Adila, tu m'as replongée dans mes années 75. Nous faisions partie, comme ton père, du Parti communiste algérien qui bien sûr était interdit. Dans ce cadre, ton père Hossine avait fait part un mois avant son assassinat d'une énorme affaire de corruption sur laquelle il cherchait des preuves tangibles, bien qu'il sache que c'était très dangereux. Ne pense pas que ce « papa est mort » que tu disais à tout bout de champ était prémonitoire. Sans doute avais-tu dû entendre une conversation sur la dangerosité de sa démarche. Les adultes parlent souvent en toute liberté devant les enfants. Intrigué par le mystère et le souffle d'héroïsme qui se dégage du témoignage de cette dame anonyme, que j'appellerai M, je lui ai téléphoné. Et elle m'a confirmé qu'elle pensait que mon père faisait partie du Parti communiste algérien.
Mais comment ça se fait que vous étiez au PC? Ça signifiait quoi être au PC? Comment votre quotidien?
Des réunions organisées en cellule et qui étaient secrètes.
Et tu te souviens de ce qu'a dit mon père?
Je sais ce qu'a dit ton père. Mmh. En fait, je ne le savais pas. Je savais que c'était un problème de corruption, mais je ne savais pas laquelle. C'était une corruption qu'il a su d'une autre personne. Et c'était une corruption au sujet des moutons de l'Aïd.
D'accord. Et du coup, lui, il a dit « j'enquête pour la cellule ».
On lui a dit « c'est très dangereux, fais très attention ». On lui a même dit « ne le fais pas ».
Mais toi, tu lui as dit ?
Non, pas moi.
D'accord. C'est la personne qui est avec lui dans la cellule.
Oui.
Et lui, il a enquêté quand même.
Oui. Ton père était... Enfin, il ne voyait pas le mal. Tu comprends ? Il ne voyait pas le mal et donc il a dû être très imprudent.
Il faut savoir que dans ce pays où rien n'est simple, le Parti communiste algérien ne s'appelle pas le Parti communiste algérien. Il s'appelait comme ça pendant la guerre d'Algérie, mais comme toutes les autres formations politiques du pays, il se retrouve interdit à l'indépendance. À partir de 1965 et du coup d'État de Boumédienne, une partie des militants communistes crée le Parti de l'avant-garde socialiste, le PACS, et il plonge tout à fait dans la clandestinité.
Bonjour.
Officiellement, mon père n'a jamais fait de politique. Mais pour comprendre comment fonctionne un parti socialiste clandestin dans un pays dit socialiste, je suis allée voir un des fondateurs du PACS. Monsieur Sadek Adjeres.
Vous avez une vue magnifique.
Comme beaucoup de perdants de l'histoire officielle, Sadek Adjeres vit aujourd'hui dans une ancienne banlieue rouge de Paris. Mais il a passé une grande partie de sa vie en Algérie, dans la clandestinité. Avant l'indépendance, pour échapper à la police française, et après l'indépendance, pour échapper aux services secrets algériens.
Le Parti communiste algérien était déjà interdit depuis novembre 62. Mais c'était une semi-clandestinité, donc je vivais légalement, j'ai repris mes activités de médecin après l'indépendance, et puis il y a eu le coup d'État.
Vous parlez du coup d'État de Boumédienne.
Le Boumédienne, oui, de 19 juin 1965. Là, j'ai interrompu une nouvelle fois. Bon, après, j'ai plus repris.
C'est comment votre vie en clandestinité entre 1965 et 1971? Vous habitez où?
Habitez un peu partout, depuis des caves ou des réduits. Des tas de choses absolument invraisemblables. C'est-à-dire, le meilleur déguisement que j'ai eu, ça a été j'étais très mince, ça a été de grossir, manger des pâtes, jusqu'à ce que même des amis proches... rencontré par hasard dans la rue, ne me reconnaissent pas.
Comment vous faisiez pour travailler à cette époque où vous étiez clandestin, là, après 65?
Bon, j'avais déjà une première expérience de la clandestinité pendant la guerre. Ça ne veut pas dire ne pas sortir du tout. Au contraire, très vite, on a appris que c'était mieux de sortir, faire des liaisons, des réunions, en dehors de l'abri précaire qu'on avait, que de faire venir des camarades à des abris ou...
Justement, pendant cette période-là, vous rencontrez des militants. C'est pas dangereux, ça, de rencontrer des militants?
Ah oui, bien sûr. Mais si vous rencontrez pas de militants, il n'y a plus d'organisation.
Ouais.
Donc, évidemment, le moins possible, avec beaucoup de précautions pour les rendez-vous, etc. Le plus souvent, c'est des rencontres dans la rue. On prend un moment, on discuter, échanger des conseils. Évidemment, ça appauvrit les échanges.
Et pour vous, ça s'arrête quand, la clandestinité ?
Officiellement, 89, c'est-à-dire après 24 ans de clandestinité. Il y a eu beaucoup de paliers. Il y avait le moment où la répression était violente. Puis, comme le PAC, c'était la seule formation politique qui soutenait ce qu'il y avait de progressiste dans les mesures du pouvoir dictatorial, qui était... Il y avait des moments de diminution de la répression, donc on était à agir dans une position ambiguë, où on avait un certain nombre d'activités clandestines et puis d'autres activités qui étaient au grand jour dans les syndicats, dans les organisations de masse, etc. La ligne générale, c'était pas du tout un soutien au pouvoir, c'était le soutien d'un certain nombre de mesures, et la critique, l'opposition, les mesures qui étaient contraires à ce que nous estimions l'intérêt national et l'intérêt de la société.
Comment ça marche d'être à la fois clandestin et soutenir certaines mesures du gouvernement qui vous persécute en fait
quand même. La nationalisation des hydrocarbures, on ne va pas être contre. Au contraire, on a intérêt à ce que cette mesure-là, on l'a réclamée nous-mêmes depuis des années. Et le moment où elle se produit, on va dire non, on n'est pas d'accord parce que c'est le pouvoir tel qu'il a mis en... Mais on est pour que la pression, la mobilisation se poursuive pour une application réelle et jusqu'au bout de ces mesures.
La réforme agraire, autrement, c'est la même chose ?
La réforme agraire, c'était la même chose. C'est pour ça, quand vous m'avez parlé de ça, quand je vous ai posé la question sur l'UTA, je me demande si ce n'est pas une voie pour explorer, pour voir si d'anciens de l'ITA n'ont pas connu. L'ITA de Mostaganem, c'était connu. C'était vraiment un bastion de jeunes qui étaient pour la réforme agraire, et pas seulement pour la réforme agraire, mais d'un point de vue économique général. Je vais essayer de voir s'il y a des anciens de l'époque. Il faudrait que je prenne le nom de votre père.
Quand j'ai quitté Sadeka Djeres, j'avais le cœur serré. À mes yeux, c'est un héros, mais le héros d'une histoire tragique. Celle d'un parti clandestin, mais pas tout à fait. Un parti d'opposition, mais pas tout à fait non plus. Un parti communiste, mais pas reconnu comme tel. Il se trouve aussi qu'il est difficile pour moi de savoir si mon père, quand il était étudiant à l'Institut de Technique Agricole, a fait partie de cette histoire. Tous les anciens militants du PACS que j'ai rencontrés ont refusé de me parler. Tous, sauf Nassera.
Je trouve qu'il y a tellement d'histoires singulières, c'est extrêmement difficile de dire « je ». C'est très dur de dire « je » parce que tout ce que nous avons vécu, nous l'avons vécu dans le collectif.
Ouais, mais par exemple, ouais, qu'est-ce que tu disais ? Est-ce que tu disais « je suis au PACS » ou pas ?
À qui ? Aux gens ?
Ouais.
Non, bien sûr, tu ne pouvais pas le dire, tu étais clando.
Mais
pas,
à tes proches.
C'était pas parti légal.
À tes proches.
Non plus, non.
D'accord, mais alors, mais les gens, ils le savaient ?
Oui, bien sûr. Les gens le savaient, les flics devaient le savoir.
Non, c'est vachement dur à
comprendre. Je te disais que c'est ce que j'appelle, moi, la semi-clandestinité. Enfin, moi, ce que j'ai vécu.
Tu sais, je t'ai raconté l'histoire de cette femme qui m'a appelée, qui m'a dit que mon père, il était au PACS, etc. Est-ce que tu crois que c'est possible qu'il ait été au PACS sans que personne ne sache ?
Oui, il aurait pu l'être comme il aurait pu être un sympathisant, ton père.
Avant de s'amuser. Ah non, mais sympathisant, j'en suis sûre, puisque je vois bien qu'autour de lui, il y avait des gens du PACS. Mais est-ce que c'est possible qu'il ait été militant du PACS sans que ma mère, elle le sache, par exemple ?
Non, faut pas déconner, ta mère, elle était aussi étudiante à l'époque, elle connaissait les gens. Non, mais non, bien sûr que non. Tu penses que ton père encore était dans l'ultra secret ?
Ben non, je pense pas, mais non. Par acquis de conscience, je pose la question.
Non, je pense pas, non, franchement. Ils devaient être sympathisants tous les deux, même ta mère devait l'être.
Je décide d'adopter l'opinion de Nassera, un peu parce que je lui fais confiance, mais surtout parce que cette histoire d'assassinat politique à cause d'un trafic de moutons de l'Aïd, franchement, ça fait un peu OSS 117 dans les Aurès. Je retourne à l'état de Mostaganem pour reprendre mon enquête là où je l'avais laissée. Mais cette fois-ci, je n'y retourne pas seule.
C'est comme ça, là, il y avait le palais, là. Ça, c'est ça, l'état.
Alors... Les escaliers, ils les ont barrés.
monter les escaliers par là-bas. Bonjour, bonsoir messieurs.
Papa, viens voir. Papa, je sais déjà ce que vous allez dire. Oui, je vous ai menti. J'ai un papa.
40 ans. Et alors, on est venu voir, oui. Ouais, on est venu voir. Oui, oui, on peut.
Je fais partie de ces rares personnes qui ont eu la chance d'avoir deux pères. Ou plutôt, j'ai eu un père et un papa. Mon père, Hossein Benejaï, mort sans que je le connaisse, m'a transmis son nom et une histoire nébuleuse que je m'entête à explorer avec votre aide. Mon papa, Richard Zou, m'a aussi donné son nom. Et puis, il m'a soigné quand j'avais la varicelle, m'a appris à faire la différence entre les stalactites et les stalagmites, m'a hurlé « ici, c'est pas un hôtel » quand j'étais ado. Bref, vous comprendrez bien que je ne peux pas appeler un tel homme mon beau-père, c'est tout simplement mon papa. Mais comme je sais que cette idée de deux pères crée parfois de la confusion, pour vous, je les appellerai mon père Richard et mon père Hossein.
C'était mon bâtiment. C'était à moi, celui-là. C'était le tronc commun.
Ici, c'était arboriculture fruitière et forêt aux forêts. Et là-bas, c'était vignoble et je ne sais pas quoi d'autre.
Je n'ai pas souhaité parler de mon père Richard au début de mon enquête. Un peu par discrétion, un peu aussi parce que ça m'arrangeait bien de passer pour une pauvre orpheline. Mais à présent, je ne peux pas faire autrement parce qu'il est là, avec ma mère. Ils ont tous les deux voulu m'accompagner en Algérie et ça fait très exactement 39 ans qu'ils n'ont pas remis les pieds à l'Institut technique d'agronomie de Mostaganem.
Toi, t'enseignais quoi ?
Arboriculture fruitière.
Et toi, papa, t'enseignais quoi ?
Moi, sociologie. Moi, j'étais enseignant en sociologie et économie. C'est-à-dire, je devais expliquer le bien fondé de la révolution agraire et des nouvelles structures mises en place par le gouvernement révolutionnaire de Wari Boumediene.
Et tu croyais ?
Ah bah à l'époque, oui, un peu, oui.
On y croyait.
Quel âge t'avais quand t'es parti en Algérie ?
Eh bien, quand je suis parti en Algérie, je suis parti en début 77, donc j'avais 26 ans. Je venais de terminer mes études. J'avais demandé à faire la coopération parce que je voulais partir à l'étranger. J'étais militant au Parti communiste français et donc je voulais partir dans les pays en voie de développement pour à la fois, bon, il y avait l'aspect découverte du monde et puis il y avait l'aspect aide aux pays du tiers-monde. Et puis dans la famille à l'époque, on était plutôt anti-impérialiste. Enfin, tu vois, quand il y avait les premières manifestations pour les droits civiques aux États-Unis, où on voyait les chiens policiers qui attaquaient les Noirs qui manifestaient pacifiquement, tu vois, c'était ma sœur se mettait à pleurer, ma mère éteignait la télé. Enfin, c'était. Et puis bon, comme moi je lisais la presse communiste, on avait à l'époque une vision assez. Je dirais enthousiaste et idyllique de ce qui se passait en Algérie.
أن تدين جميع أولئك الذين يستخدمون القوة والنفوذ الاقتصادي.
La présente assemblée devrait condamner tous ceux, gouvernements ou entreprises, qui utiliseraient la force ou la puissance économique pour perpétrer.
Il y avait le discours de Boumediene devant l'ONU où on le voit descendre avec son burnous. Qui descend et qui était complètement impressionnante. Enfin, c'est la première fois qu'un président d'un pays du tiers-monde s'adressait comme ça à l'Assemblée générale des Nations Unies avec cette prestance qui était liée à l'histoire, enfin au fait qu'il était le représentant du peuple algérien, qui était le peuple qui avait vaincu une armée coloniale.
Wari Boumediene, encore lui. Quand je vous dis qu'il a pesé sur mon destin, je n'exagère pas. En l'occurrence, il y a quelque chose de troublant à penser qu'au moment précis où mon père Richard, en bon communiste français, regarde le président Boumediene avec admiration, ce même président persécute les communistes algériens dont faisait peut-être partie mon père Hossein.
Voilà, donc si tu veux, c'est cette image un peu romantique en fait de l'Algérie que j'avais, vue du point de vue de la presse communiste qui était l'œuvre, si tu veux, des paysans. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était les paysans eux-mêmes qui tous les jours se levaient en chantant des hymnes révolutionnaires pour aller joyeusement sur les chantiers de travail, quoi. En plus de ça, moi, j'avais vraiment envie de sortir de l'ambiance de familiale dans laquelle je vivais, puisque j'avais perdu ma sœur 2 ans auparavant, que l'ambiance familiale était hyper étouffante et que j'avais vraiment besoin de mettre de la distance.
En 2 mots, je peux dire qu'aujourd'hui, tout est possible en termes de la France. Mais seuls, nous ne pouvons pas tout faire. Moi, je crois qu'il faut commencer par le commencement.
souviens, j'ai une image extrêmement précise du jour où j'ai chargé ma 4L verte. Donc j'avais un radiocassette qui était assis sur le siège à côté de moi. Et je prenais l'autoroute du Sud avec ma 4L pour rejoindre Marseille et prendre le bateau. Et j'ai passé la porte d'Orléans avec mon radiocassette qui chantait à tue-tête, les chants révolutionnaires cubains, quoi, enfin chiliens plus exactement, sur la révolution chilienne. Et je suis parti comme ça et je voyais la route qui s'ouvrait devant moi. Et cette musique d'ambiance, c'est moi qui allais, qui partais. Voilà.
Richard n'est pas le seul à partir vers l'Algérie en chantant. À l'époque, encore considérée comme la Mecque des révolutions, l'Algérie est le rendez-vous des militants du monde entier. C'est le lieu où on rêve de faire converger les combats antiracistes et les luttes anticoloniales. Un endroit où le nom de Frantz Fanon résonne encore comme un étendard. Ce n'est sans doute pas étranger au choix de mon père Richard, car il y a une chose que vous ne pouvez pas entendre dans sa voix, c'est qu'il est métisse, né d'une mère berrichonne et d'un père guadeloupéen. En tous les cas, Wari Boumediene profite de l'excellente réputation de l'Algérie pour développer une politique de coopération poussée avec divers pays. Durant les années 70, plus de 80% des enseignants sont des coopérants et ils sont presque tous français. En 1977, rien qu'à Nita, ils sont plus d'une centaine.
Et tous les deux, vous vous êtes connus ici ?
Oui, oui, oui.
D'accord.
C'est ça, tous les deux, nous deux ?
Bah oui.
Au Belvédère. Puisque moi, quand je suis arrivé ici un jour, je suis arrivé un vendredi soir ici. Donc tout était fermé et je suis tombé sur un mec qui m'a vu arriver avec ma bagnole, qui m'a dit bah, « viens dormir à la maison ». Donc je suis monté dormir chez lui et il s'est trouvé que quelques jours plus tard, ta mère, cette divine créature, est venue lui rapporter des disques. Et donc elle venait, elle passait de temps en temps dans l'appartement, donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance.
Et tu te souviens quand est-ce que tu as commencé à te dire que c'était vraiment une relation sérieuse ?
Un des moments décisifs, c'est quand toi, tu m'as demandé de t'emmener à l'école. On était en voiture et tu étais debout, puisque à l'époque, tu te tenais debout dans une 4L. Donc, tu t'accrochais au siège. Et donc, comme je t'ai répondu oui, c'était les micro-décisions, si tu veux, qui m'engageaient à chaque fois, toi, de plus en plus. Dans ma tête, ça, le travail se faisait en même temps que je vous prenais. Et si je vous prenais, je savais que je pouvais pas vous quitter. Si tu veux, ta relation avec ma relation avec ta mère, c'est aussi ma relation à vous.
Toi, tu t'es pas dit, oh là là, je vais me retrouver avec trois traumatisés sur les bras, quoi.
Ah non. Ah non. Non, non, je me suis pas posé. Non, moi, je me pose pas ce genre de questions.
Et tu crois pas que ça ait pu jouer aussi de faire une espèce de convergence de gens blessés, puisque toi aussi, tu avais souffert d'un deuil récent qui était celui de
ça. Oui, je pense qu'il y avait l'histoire du deuil qui probablement a joué dans notre rapprochement, mais c'est les histoires de réparation aussi.
Dans ma famille, comme dans la plupart des familles, à défaut de sauver le monde, on se sauve soi-même. Ma mère et mon père Richard emménagent ensemble et nous reconstruisons une famille pendant qu'autour de nous, le régime de Boumediene a de plus en plus de mal à cacher ses contradictions.
Ta mère et moi, on avait deux opinions assez différentes sur l'Algérie, si tu veux. Elle était persuadée qu'on était en voie de fascisation. Et moi, qui avec ma hauteur de vue communiste, je disais, tu sais pas ce que c'est qu'un régime fasciste, tu t'as pas vu ce qui s'est passé au Chili, l'Algérie, c'est pas un pays fasciste, c'est un pays autoritaire, certes, mais ce n'est pas un pays fasciste. Donc moi, j'avais à l'époque, j'envisageais assez facilement de rester en Algérie. Et la grande menace qui agitait ta mère, c'était le fait qu'on puisse vous retirer à elle. Et l'argument principal, c'est pas tant que ta mère sorte avec un autre mec, quoi, ça c'était pas trop grave. Mais c'est qu'elle sortait avec un gaouri et un non-musulman en particulier. Et donc ta mère est partie en France avant moi, avant que j'ai fini mon contrat de coopération.
Pourquoi avant ?
Elle s'est battue avec un de ses collègues. Et ça commençait à devenir chaud parce que quand elle s'est battue, moi j'ai voulu aller casser la gueule au mec. Et Jemel qui m'a vu arriver, m'a attrapé par le bras Et il m'a dit, eh bien, on va prendre un café. Et puis après, il m'a expliqué, c'est lui qui avait raison. Il m'a dit, si tu lui tapais sur la gueule, non seulement toi, t'étais renvoyé en Allemagne immédiatement en compagnie disciplinaire, mais elle, en plus de ça, dès que t'étais parti, elle s'en prenait plein la gueule. Donc, il nous a effectivement, ce jour-là, probablement épargné beaucoup d'ennuis. Là, on avait déjà décidé que ta mère se tirerait ce qu'elle a fait, réussissant à avoir l'autorisation de sortie du territoire pour toi, Chami, et elle. Et donc elle est partie en avion et moi je suis resté seul en Algérie pendant un mois ou deux mois, je ne me rappelle plus, deux mois peut-être bien. Je suis parti clandestinement en fait. Et donc on a chargé la bagnole en une demi-heure, j'ai taillé la route jusqu'à Alger, où j'ai pris le bateau et je suis parti comme ça.
Nous avons quitté l'Algérie pendant l'été 1978 et le président Boumédiène est mort au mois de décembre suivant. On a parlé de maladies graves, d'empoisonnement au lithium, d'un coup des services secrets israéliens, mais moi, je sais qu'il n'a tout simplement pas supporté notre départ. 40 ans plus tard, c'est entouré de cette deuxième famille que je continue à chercher comment ma première famille a été détruite.
En fait, c'est vrai que c'est...
Je décide de retourner à Bousfer, voir la maison où mon père a été assassiné.
Au téléphone hier soir, il s'est renseigné auprès des gens qui avaient habité à Bousfer, là, les Badners, et ils lui ont dit, mais non, mais la maison, elle a été détruite entièrement en 98.
Ah bon?
Ouais.
Pourtant, moi, celle que tu m'as montrée, ça lui ressemblait. Hein.
Et je profite donc de la présence de ma mère, qui est la seule à pouvoir l'identifier formellement.
J'ai bien compris que nous avons tous le chemin pour trouver une maison qui a été détruite en 98. On se fait chier.
Bien évidemment, Richard vient aussi avec nous, ce qui fait de moi la première enquêtrice au monde qui travaille accompagnée de ses parents.
C'est plaisante. On a fait des demi-tours sur autoroute, on a doublé les voitures, des camions en pleine côte. Tout ça pour chercher une baraque qui n'existe pas.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, épilogue des années boom. Premier épisode d'un reportage d'Adila Benedjaizou réalisé par Cécile Lafont. Merci à Alain Ruscio, à Attika et Richard Zou. Céline Autin, c'est notre stagiaire. Et Sandrine Chapron, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, bien sûr.